je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus.
Bonjour bien-aimés, que le Seigneur soit béni pour cette opportunité d'écouter sa parole. Sa parole, c'est la vie. Sa parole nous amène à faire sa volonté. Et sa parole est glorieuse. Et aujourd'hui, nous allons reparler d'un passage dont on a déjà parlé. C'est dans Matthieu chapitre 22. Dans Matthieu chapitre 22, ça s'appelle la parabole des invités ou la parabole des noces. Aujourd'hui, nous allons plus l'appeler la parabole des noces. Voilà, parce que nous allons beaucoup plus nous intéresser aux enfants de Dieu. Donc, c'est la parabole des invités aussi, parce que tout le monde est invité. Mais aujourd'hui, nous allons insister sur le fait que c'est la parabole des noces. Et nous allons lire Matthieu 22, 1 à 14.
Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Amen. Donc il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous savez, il y a cette parabole aussi dans Luc au chapitre 14. Et il est dit que quand ils furent invités, il est dit que ils commencèrent unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi. Et un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Voilà, donc il y avait des excuses de la part de ces personnes qui avaient été invitées. Bien aimé, c'est très important pour toute chose de se mettre dans le contexte. Nous avons affaire à un roi. Donc nous sommes dans un royaume. Pour ceux qui ont vécu dans un royaume, la compréhension de cette parabole sera beaucoup plus claire. Mais nous voulons combler le manque concernant ceux qui n'ont jamais vécu dans un royaume. Vous savez, dans un royaume véritable, tout le pays est comme la maison du roi. Donc, ce n'est pas seulement le palais royal. Tout le pays, tout le territoire, avec ses humains, appartiennent au roi. C'est ça un royaume. Donc on appelle les humains d'un royaume les sujets du roi. Donc ils appartiennent au roi. Que ces gens-là rejettent une invitation du roi, c'est une offense suprême. Parce que l'invitation du roi est en réalité en même temps un ordre. Vous savez, dans un royaume, le roi te fait appeler, tu laisses tout et tu le suis. Vous comprenez maintenant, quand Jésus-Christ, dans Luc 9, 57 à 60, il demande à quelqu'un, il lui dit, viens avec moi. Et la personne dit, non mais j'ai encore telle chose. Jésus dit, non, qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Jésus parle vraiment dans le contexte du royaume. Il est le roi des rois. Quand il te dit, suis-moi, tu viens. Il y a un autre qui a dit, mais je dois aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi pour aller annoncer le royaume. Bien-aimé, Jésus est vraiment dans la posture, dans la position d'un roi quand il appelle. Il n'y a pas d'excuse. Donc, Luc 9, 57 à 60 nous montre qu'il ne peut pas y avoir d'excuse quand un roi t'appelle. Parce que tu es à lui. Nous qui avons vécu dans un royaume, moi j'ai vécu au royaume du Maroc. Je sais ce que c'est qu'un roi, un vrai roi. Toute la terre du royaume, c'est à lui. C'est pas comme les royaumes diminués d'Angleterre. Les vrais royaumes, c'est comme ça. Donc quand le roi t'appelle, c'est comme si on appuyait sur une télécommande. On réagit tout de suite à l'appel du roi, à l'écoute. On se met à l'écoute de ses attentes. Parce que certaines personnes, en lisant comme ça, peuvent trouver ça normal, mais ben, ils n'avaient pas le temps, ainsi de suite. Bien aimé, c'est mal comprendre de quoi il s'agit. Et Jésus le dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Vous savez, du temps de Jésus, il y avait déjà des pays à caractère républicain ou démocratique. Il y en avait déjà. Athènes existait. La Grèce existait. Il y avait déjà. Mais quand il prend ces exemples par rapport au royaume des cieux, il ne prend pas une république ni une démocratie. Il prend un royaume. Et c'est ce qui est vrai. Dieu est roi. Tout est à lui. Ces gens-là, en disant, en donnant des excuses, ils font une grande offense au roi. Et d'ailleurs, comment on le sait profondément? Parce que on envoie une deuxième fois quelqu'un. C'est écrit, il envoya encore d'autres serviteurs. Et ces gens-là persévèrent dans leurs excuses. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que dans le cœur de ces gens-là, le roi n'était pas le roi. Le roi n'était pas leur roi, du moins. Et c'est un principe contraire à la réalité d'un royaume. Dans un royaume, le roi est le roi de tout le monde. Tu es dans un royaume, tu es au roi. Il y a une autre possibilité. C'est que ces gens-là, se voyant bien traités par le roi, certainement, il avait acquis l'habitude de bien les traiter, de leur accorder un certain respect. Et voilà qu'il leur envoie une invitation en bonne et due forme, proprement, dans la douceur, dans la majesté de l'invitation, il envoie des serviteurs aller leur parler. Et ces gens-là ont dû se croire importants. Première possibilité, c'est que, au fond de leur cœur, le roi n'était plus leur roi. Il était là avec une étiquette, mais chacun appartenait à lui-même. Deuxième possibilité, ceux qui se sont crus importants, au point de se mettre au même niveau que le roi. Voilà, il a besoin de nous, il nous invite, quoi. C'est comme ça que beaucoup de gens du monde comprennent notre évangélisation. Quand on évangélise, c'est comme ça que beaucoup de gens du monde, parfois avec qui nous avons habité, ou bien avec qui nous travaillons, ou bien avec qui nous avons étudié ou nous étudions, ils pensent que quand Dieu les invite au salut, c'est que Dieu a besoin d'eux. C'est complètement faux. Dieu n'a besoin de personne. Il veut sauver, tout simplement. Il veut sauver. Il aime, oui. On ne peut pas lui reprocher d'aimer l'humanité, d'aimer les humains. Il aime les humains, mais il n'a pas besoin des humains. Il se suffit à lui-même. Il est éternel. Il existait avant. Et il est. Donc, il n'a même pas de temps. C'est l'homme qui est entré dans le temps. L'homme, lui, Dieu n'est pas dans le temps. Il n'a pas besoin de l'homme. C'est par amour qu'il veut sauver l'homme. C'est l'homme qui est honoré d'être invité. Mais l'homme se trompe. Se voyant invité, il se prend pour quelqu'un d'important. Et surtout, avec le langage qu'emploient certains chrétiens en invitant les païens, on sent dans ce langage un langage commercial, un langage publicitaire. Du coup, le païen a l'impression d'être en face d'un publicitaire qui vend un produit. Donc il se sent élevé, il se sent important, puisque c'est lui qui va enrichir la personne en achetant le produit. Et il y a confusion. Bien aimé, ça doit nous interpeller dans notre façon de parler aux gens qui se perdent. Nous ne devons pas leur parler comme si nous avons un produit à vendre et que notre société a besoin d'eux pour prospérer. Non, nous devons bien leur faire comprendre que c'est eux qui sont en train d'aller dans la perdition. Dans la perdition éternelle. Et que Dieu veut les sauver. Il faut que ça soit clair. Nous ne cherchons pas à vendre un produit, nous invitons les gens au salut. Ces gens-là, ils ont dit non. Ça montre, bien aimé, que le roi n'avait plus cette qualité de roi dans leur cœur. Ces gens-là sont devenus orgueilleux parce que le roi leur a fait grâce de beaucoup de choses. Jusqu'à les inviter aux noces. Mais ce que ces gens-là oubliaient, ce que je dis aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est que ça, cette parabole, nous parle des dernières noces. Donc quand on loupe ces noces-là, il n'y aura pas une autre occasion de noces. Ces gens-là, ils sont tombés dans le piège de ce que j'appelle la familiarisation. Ils se sont familiarisés avec le roi. Ils n'ont plus regardé le roi comme étant majestueux, leur maître, leur seigneur. Mais le roi est devenu un collaborateur tout simple. C'est pourquoi ils ont donné des réponses comme si on donnait à un ami, à un pote, à un collaborateur. Voilà. Bien-aimé, ce qui s'est passé, le roi avait perdu en importance dans leur cœur. C'est ce qui explique une telle attitude. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu a perdu en importance dans le cœur de beaucoup de personnes. Notre thème d'aujourd'hui, c'est prendre au sérieux l'autorité de Dieu et de sa parole. Prendre au sérieux l'autorité de Dieu et de sa parole. Les gens ne prennent plus Dieu au sérieux. Ils ne prennent plus sa parole au sérieux. Et en particulier, ce qu'on appelle les chrétiens, ils se sont familiarisés avec Dieu. Ils se sont familiarisés avec les Écritures. Ils connaissent beaucoup de versets, beaucoup de passages. Ils ont entendu des tonnes de prédications. Mais au lieu que leur crainte en l'Éternel augmente, ça a périclité. Et ils se sont égarés au point que lorsque Dieu les invite à revenir au bon sens, à s'intéresser à sa royauté, à s'intéresser aux noces de l'agneau, à s'intéresser au ciel, à s'intéresser au paradis, venez à l'invitation finale, allez, on y va au paradis. Ces gens-là disent, non, non, j'ai un séminaire dans tel endroit. Je dois parler sur Facebook. Je suis un jeune connu. Ils sont devenus sourds, aveugles. Ils voient sans voir. Les yeux sont ouverts, ils ne voient plus Dieu. Ils ont des oreilles, mais ils ne comprennent plus rien. Parce qu'ils ont perdu quelque chose de très important. Ils ont perdu la crainte de Dieu. Nous allons lire Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. Ils ont perdu la crainte du Seigneur. Chacun est en Christ, beaucoup sont en Christ, comme juste une religion, comme une pratique, comme on serait fanatique d'un club de football. Ils soutiennent, ils crient « Jésus, Jésus !» Mais c'est des supporters de football, de clubs de football. Il n'y a plus la crainte de Dieu, il n'y a plus le respect de Dieu. Où tu dis « Mais voici Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Il n'y a plus du tout ça. Il y a les programmations personnelles. Tiens, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Ben, avec la grâce que Dieu m'a donnée, je dois faire ceci. Je dois... Donc, chacun fait sa programmation. Maintenant, quand Dieu dit, entre dans mon programme, ces gens-là n'entendent plus. Ils osent même dire à Dieu, mais non, 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 j'ai déjà programmé telle chose. Et ils disent même, c'est Dieu qui m'a inspiré. En réalité, c'est eux-mêmes. Ils n'écoutent plus Dieu. Il y a une familiarisation avec Dieu dans les milieux chrétiens. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et Dieu, à travers cette parabole, il nous montre là où ça finira. Ça finira par le fait que beaucoup vont rejeter Dieu. Alors que, clairement, il va les inviter. Arrêtez avec le mondanisme. Arrêtez avec le mélange entre le monde et Dieu. Arrêtez avec les méthodes du monde dans le service du Seigneur. Ils vont dire, non, 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 c'est ma méthode qui marche. On aura beau leur montrer comment ça se passait dans la Bible. Ils vont dire, non, 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 non. C'était la vieille époque. Maintenant, ce qui marche, c'est tel système. Nous, on prêche Dieu dans ce système-là et ça marche. Dieu dira, ah, maintenant, il faut savoir c'est qui que vous prêchez. Si c'est moi que vous prêchez, mais moi, je vous montre la façon de faire. Si c'est réellement moi que vous prêchez, vous devez suivre la façon que j'ai fixée dans ma parole. Nous allons lire Psaume 111, verset 10.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine.
La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu te dis, je suis petit, quand tu te dis, mais Seigneur, tu m'envoies prêcher, si tu ne m'accompagnes pas, Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu ne réalises pas ta petitesse pour dire, oh Seigneur, je suis tellement petit, toi seul et grand, prends-moi, conduis-moi, parle-moi. Tu n'auras pas une raison saine. Tu n'auras pas la sagesse. Quand tu ne crains pas Dieu pour reconnaître qu'il est plus grand que toi, qu'il ne se trompe pas, que tu as besoin de lui, qu'il t'a montré le chemin par les Écritures, par sa parole, quand tu penses que ce sont tes prophéties que tu tiens de je ne sais où, toi tu prétends que c'est Dieu, mais ça contredit les Écritures. Quand tu penses que parce que tu as des followers, des gens qui te suivent sur YouTube, tu crois que c'est ça qui te donne la patente comme quoi tu es de Dieu. Tu te trompes. Il y a des coachs spirituels, des coachs, même pas spirituels, des coachs de vie, des coachs qui enseignent aux gens comment s'habiller, comment se maquiller. Ça existe sur YouTube. Ils ont beaucoup de suiveurs. Il y a ce qu'on appelle des influenceurs. Ils ont beaucoup d'abonnés. Avoir beaucoup d'abonnés n'est pas synonyme de vérité. La vérité, c'est dans les Écritures. Et Psaume 111, 10 dit ceci. Si tu ne crains pas Dieu, pour reconnaître qu'il ne peut pas se tromper lorsqu'il a donné sa parole, tu ne vas pas avoir une raison saine. Ce qui fait que le jour où Dieu viendra d'une manière évidente, tu ne le reconnaîtras même pas. L'invitation est claire. On vient voir ces gens-là une fois, deux fois pour leur dire, mais le roi a dit que tout est prêt. Vous attendez quoi? Oh non, mais... Oh non, mais... Ils se sont familiarisés en prétendant même que ce qu'ils font, c'est de Dieu. Et c'est ce que les Écritures nous disent dans 2 Timothée 4. Les gens se donneront de foules de docteurs. Eux-mêmes, ils se donnent de docteurs pour leur enseigner de fausses choses. Donc, ils se disent, oui, mais ce que nous faisons, c'est de Dieu, puisque c'est au nom de Dieu. Non, faire les choses au nom de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est de Dieu. Pour que ça soit de Dieu, il faut que ça corresponde aux Écritures. Il faut que ça corresponde à une attitude de notre part où on laisse Dieu faire. On laisse Dieu nous entraîner. Jésus a dit à Nicodème, être d'esprit, naître d'esprit, c'est comme le vent, ça souffle, tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va, mais tu en entends le bruit. Ça t'entraîne. C'est Dieu qui t'entraîne. Ces gens-là ne sont pas entraînés par Dieu. Ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas entraînés par Dieu. Ils respectent une logique qu'ils ont héritée de leurs prédécesseurs, de leur église, de leur pays. Aujourd'hui, les gens entrent dans l'œcuménisme parce que leur église est entrée dans l'œcuménisme et eux aussi suivent. Mais 2 Corinthiens 6, 14 à 19 nous dit que l'œcuménisme est diabolique. Dieu ne permet pas. Apocalypse 13 nous dit que dans la fin des temps, il y aura une réunion spirituelle autour d'un être. Et les gens iront dedans parce qu'ils ne respectent plus Dieu. Ils ne prennent plus Dieu au sérieux, qui interdit le mélange, qui veut qu'on l'adore lui seul. Il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu l'adoreras lui seul. Aujourd'hui, les gens disent, oui, il y a le coronavirus, un pasteur, un imam, un rabbin, et puis un prêtre catholique, ils vont aller prier ensemble dans le palais de la nation, ils vont aller prier ensemble dans tel endroit pour montrer l'unité devant Dieu, que tous les croyants prient ensemble, et on donne même les heures de prière que les musulmans vont respecter, les catholiques vont respecter. Bien-aimés, c'est démoniaque, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Quand les bien-aimés dans la parole, il y a eu des événements, des difficultés, c'est les vrais de Dieu qui ont prié. C'est Esaïe qui avait prié pour que Sennacherib soit vaincu. Esaïe avait prié. Il n'avait pas dit à n'importe qui de venir prier avec lui. Le Seigneur veut être servi en esprit, en vérité. Pas seulement en esprit, mais en vérité aussi, selon ses critères à lui. Daniel avait refusé de manger les mets du roi. Il n'a pas voulu faire du mélange. Il a voulu faire les choses selon ses critères à lui. Les critères fixés par son Dieu, par la parole de Dieu. On ne respecte plus Dieu. On s'est familiarisé. Parce qu'il nous a bien traités. Au moment où nous écartions de sa volonté, il ne nous a pas frappés tout de suite. Au moment où nous dévions, il ne nous a pas frappés tout de suite. Alors ces gens-là ont commencé à considérer qu'il n'était pas si roi que ça. Il n'était pas si fort que cela. Parce que là, j'ai fait un coup, il n'a rien fait. J'ai fait telle chose, il n'a rien fait. Du coup, il y a eu généralisation du manque de respect vis-à-vis de Dieu. C'est l'époque que nous vivons. Le manque de respect vis-à-vis de Dieu, la crainte de Dieu a disparu parce que Dieu n'a pas frappé toujours tout de suite. Mais la parole de Dieu ne change pas. Dieu dit que le jugement commencera dans sa maison. Nous allons lire 1 Pierre 4, 17 à 18. Dieu montrera que seule la vérité compte. Il montrera cela. Il montrera que le jugement est une réalité. Nous venons de vivre ça avec le coronavirus. Son jugement est une réalité. Il peut bloquer l'économie mondiale. On vient de voir la réalité de Dieu maintenant. Mais ce n'est pas fini. Parce que 1 Pierre 4, 17 prévient tous les chrétiens qui se sont familiarisés avec Dieu pour ne plus le craindre, pour ne plus s'humilier devant sa parole, devant lui, qui s'autoproclame prophète et prophétesse. Dieu ne les a pas appelés. Ils égarent beaucoup de gens par immaturité. Dieu dit, c'est le moment de revenir à sa parole et à la crainte de son nom. Si Dieu t'a appelé, laisse Dieu s'imposer chez les autres. Ce n'est pas parce que tu sais parler français ou anglais, ce n'est pas parce que tu connais certains passages bibliques, que ce n'est pas parce que tu prophétises que tu peux t'autoproclamer un docteur, commencer à enseigner les gens sur Facebook, égarer beaucoup de personnes. Ce n'est pas parce que non plus il y a beaucoup de faux pasteurs que toi tu dois te proclamer pasteur. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de faux docteurs que toi tu dois te proclamer docteur. L'apôtre Jacques a dit que tout le monde ne soit pas enseignant. Il faut être appelé par Dieu. Le grand nombre de faux serviteurs ne nous autorise pas à nous mettre dans un ministère par nous-mêmes. Parce qu'on voit les erreurs des autres, on peut dénoncer ces erreurs. Du coup, on s'auto-proclame dans un ministère. Non, c'est Dieu qui établit. Et quand Dieu établit, il va t'imposer aux gens. Parce que c'est lui qui t'établit. C'est ça, craindre Dieu. Comme on dit dans le monde, tu ne peux pas être plus royaliste que le roi. Si c'est Dieu qui t'appelle, laisse-le s'imposer dans les cœurs des gens. Se donner des titres, faire des enseignements de prédication bien-aimés. Attention, voilà ce qui va se passer. Lisons 1 Pierre 4, 17 à 18.
Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur?
Bien-aimé, c'est ça. Le moment que nous vivons, c'est un moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans les milieux de ceux qui se disent de Dieu. Dieu fait la dernière invitation. Il vient de nous faire un tir de sommation par ce que nous sommes en train de vivre. Et beaucoup qui ne saisissent pas vont être jugés publiquement. Il va y avoir scandale sur scandale. Il va y avoir, bien aimé, vous allez, il va y avoir une apostasie flagrante. C'est-à-dire que les gens qui venaient par habituation, par familiarisation de Dieu dans les églises, ils vont clairement apostasier. Ils vont clairement tenir de propos diaboliques. Ils vont clairement tenir de propos anti-Bible. Ce n'est pas moi qui le dis. Les deux passages qu'on vient de lire, 1 Pierre 4, 17 à 18 et Matthieu 22. Ce passage-là nous montre des sujets du roi qui disent « on ne vient pas ». Le roi envoie quelqu'un d'autre pour insister. Il répète la même chose avec des excuses. Mais au fond, pour quelqu'un qui connaît un royaume, au fond d'eux, bien-aimés, en réalité, il n'y a plus la considération du roi. Dans un royaume, je vous en prie, frère, écoutez-moi, sœur, il n'y a pas d'excuse quand le roi parle. C'est-à-dire que quand tu faisais quelque chose, quand le roi parle, déjà tu te tournes pour l'entendre et tu obéis, donc tu laisses tout. Ce n'était pas prévu, mais lisons Luc 5, 11. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Pierre et les autres apôtres dans Luc 5, 11? Ce verset, je l'ai reçu. J'étais un nouveau chrétien. Je lisais la Bible. Je voyais la gloire en lisant la Bible, la gloire qu'il y avait chez les apôtres, la gloire qu'il y avait avec Jésus. Et nouveau chrétien, j'ai dit à Jésus, mais pourquoi maintenant dans l'église que je fréquente, pourquoi dans les milieux chrétiens, je ne vois pas cette gloire-là? On m'a conduit à ouvrir la Bible et je suis tombé sur... C'est pourquoi je n'ai jamais oublié ce verset-là, Luc 5, 11. Lisons ça.
Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent.
Amen. Les apôtres viennent de faire une pêche miraculeuse avec Jésus. Jésus a donné un ordre. Les poissons sont sortis. Ils ont rempli le filet. L'apôtre Pierre a compris qu'il avait en face de lui le Seigneur des Seigneurs. Il s'est agenouillé devant Jésus. Il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je ne suis pas digne de toi. Vous voyez, c'est quoi la crainte de Dieu? C'est ça la crainte. Aujourd'hui, quand nous voyons un miracle, qu'est-ce qui se passe? On commence à témoigner partout. Dieu a fait des miracles avec moi. Dieu a fait des miracles. Ça devient un trophée. Mais Pierre, quand il a vu le miracle de poissons, alors que lui, il avait pêché pendant toute la nuit, il n'avait pas obtenu de poissons. Et le matin, à la mauvaise heure, Jésus lui dit, jette le filet. Le filet se remplit au point de craquer. Quand Pierre voit ça, il tremble, il s'agenouille. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Éloigne-toi. C'est ça la crainte. La crainte, c'est de dire, oh Seigneur, comment, après avoir chanté un beau chant, la crainte, c'est de dire, oh Seigneur, qui suis-je que tu m'aies choisi pour chanter un tel chant? Les gens écoutent, Seigneur, comme si j'étais parfait. Je ne suis pas du tout parfait, Seigneur, pardonne-moi. C'est-à-dire, quand tu vois l'effet de ce que Dieu fait dans ta vie, ça crée le respect envers lui. Mais à notre époque, ça ne crée pas le respect. Ça devient un succès personnel. Oh, frères et sœurs, repentons-nous. C'est faux tout ça. Ça devrait amener la crainte de Dieu. Et quand ça a amené la crainte de Dieu, bien-aimés, quand ils sont arrivés au rivage, sur le rivage, ils ont abandonné tous ces poissons. Ce n'est pas moi qui ai lu, c'est le diacre frère qui a lu. Ils abandonnèrent tout et le suivirent. Ce verset-là a marqué ma vie. Je sais qu'au fond de moi, si on doit suivre Jésus, on doit tout laisser et le suivre. C'est le roi. Il n'y a pas de discussion. Ils abandonnèrent tout et le suivirent. Au fait, ils n'ont regardé qu'à lui désormais. Les Pierre et les apôtres, certains étaient mariés, hein, mais ils n'ont regardé plus qu'à Jésus. Nous allons revenir sur le regard exclusif sur le Seigneur. Ce que je veux dire encore, c'est quoi? Ce que je veux répéter, hein, c'est que en réalité, ils n'avaient plus la crainte du roi. Ils n'avaient plus le respect du roi. Ils n'avaient plus ça. C'est pourquoi ils se permettent de donner des excuses. Quiconque connaît la réalité d'un royaume, quand il voit que ces gens-là donnent une excuse, il sait que ces gens-là, c'est déjà des rebelles. C'est très simple. Quand tu connais ce que c'est qu'un royaume, tu entends que le ministre des Affaires étrangères n'est pas venu à la convocation du roi, à l'invitation du roi, parce que il avait l'anniversaire de sa fille. Au fond de toi, tu sais que ce ministre-là, certainement, est en rébellion contre le roi. Certainement, il a un complot qu'il prépare. Parce que on ne peut pas avoir une raison à donner au roi quand il t'invite. Ce qui me dépasse, ce qui doit dépasser les gens qui connaissent ce que c'est qu'un royaume, c'est que ce n'est même pas une convocation, c'est une invitation. Donc quelque chose de doux, quelque chose d'agréable. Une invitation, ce n'est pas pour venir faire donner des soins médicaux, ce n'est pas pour venir creuser un trou. Une invitation aux noces, ils sont honorés, mais ils refusent, ça montre leur méchanceté. Ils peuvent pas dire, ah, le roi nous embête tout le temps, alors que je suis en train d'essayer mes bœufs. Là, il veut que j'aille essayer ses bœufs à lui. Non, c'est toi qui es honoré dans une invitation dans le palais royal. Donc, vous voyez combien la méchanceté de ces gens-là est grande, bien-aimés. L'invitation au paradis, au ciel, c'est une invitation extraordinaire. Extraordinaire, bien-aimés. Est-ce que vous vous imaginez quand il fut être dans des jardins où on n'aura jamais de rhume, on n'aura jamais de pollen qui nous embête, être dans des jardins où le climat sera toujours beau, éternellement. On se promènera à l'infini. Une telle invitation, tu oses la refuser parce que tu as tes études. Tu oses la refuser parce que tu as de l'argent à gagner dans tel endroit. Tu oses la refuser parce que tu as 75 ans. Bien-aimé, ça, c'est grave. On ne respecte plus Dieu. On ne respecte plus Dieu. Les temps sont difficiles. Il faut revenir à la crainte de Dieu. C'est le roi. Une douce invitation, rejetée, foulée aux pieds. Et vous allez dire après que Dieu est méchant. Il nous avait convoqués pour creuser un trou, alors que je m'apprêtais à fêter l'anniversaire de ma fille. Non. Il t'a invité aux noces de son fils. Aux noces de son fils. Et c'est toi qui es honoré. Parce que tout a été préparé pour toi. Le roi, il est avec ses serviteurs chez lui, il a tout ce qu'il faut. Mais quand il fait la fête, est-ce qu'il fait pour lui? Il fait pour les invités. Oh Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour la résistance des humains. Je te demande pardon pour la familiarisation de la relation avec toi au milieu des chrétiens. Je te demande pardon pour la race humaine, Seigneur, qui est méchante, qui refuse une telle invitation, pardonne-nous, Seigneur. Bien-aimés, quand on entend une telle invitation, comment peut-on hésiter? Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Et le Seigneur dit qu'il va juger les gens. C'est-à-dire ceux qui étaient tolérés et laissé caché par Dieu, Dieu va le mettre en surface. Dieu va montrer que beaucoup de chrétiens ne le sont pas. Dieu va montrer aux païens qu'il y a du souci à se faire. Le jugement de Dieu va commencer dans sa maison. Nous insistons sur ça aujourd'hui. Et quand, bien aimé, on saisit ces choses, on dit, Seigneur, pardon, nous voulons à nouveau te considérer comme le roi que tu es. Pas le roi seulement de l'univers, mais le roi de ma vie. Dire comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et non pas se concocter multiples programmes en fonction de notre intelligence, en fonction de notre savoir, en fonction de nos moyens financiers. Il y en a qui voyagent, ils se disent chrétiens, ils ne demandent jamais à Dieu. Il y en a qui ne consultent jamais Dieu pour faire des achats, pour faire ceci, pour faire cela. Ils sont le roi de leur propre vie, alors que le Seigneur les invite. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Il faut répondre oui à l'invitation du Seigneur. Il faut préparer le monde à la fin. Nous sommes à la fin. Ce n'est pas l'heure de faire des excuses. J'ai ceci à faire, j'ai cela à faire. Cela montre le niveau d'irrespect que nous avons vis-à-vis de Dieu. On néglige Dieu aujourd'hui, bien-aimé. Vous savez, si vous ouvrez YouTube, ou si vous entendez, vous parlez de ce qui se passe dans les églises, dans le christianisme, il y a plus de bêtises que de vérités. Plus de bêtises. Le péché est relativisé. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes parfaits. Nous disons l'état des choses. Le péché est relativisé. C'est-à-dire que Ésaïe 5:20 est en train de s'accomplir. Appeler le bien mal et le mal bien. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Les gens s'autorisent à négliger Dieu tout en se disant serviteurs de Dieu. Ils commettent toutes sortes de péchés. Ils ont toutes sortes d'attitudes de négligence. Tranquillement. En s'excusant tout seul. En édifiant des doctrines et des théories qui les excusent de tout. Le mot repentance est devenu vieux. Le mot pardon vis-à-vis de Dieu est devenu lourd. Ça fait passer Dieu comme un méchant. Donc si on dit pardon, il est méchant, on est obligé de lui dire encore pardon. Dieu dit, le jugement commencera dans la maison de l'Éternel. C'est la vérité, bien-aimé. Le péché, c'est une des manifestations de la résistance à Dieu, du non-respect. Je n'ai pas dit que si on a péché, c'est qu'on ne craint pas Dieu. Mais si on a péché et qu'on considère ça comme étant quelque chose de relatif, ce n'est pas vraiment un péché, là on ne craint pas Dieu. On est dans l'irrespect de Dieu. C'est ce que Jean dit. Si quelqu'un n'avoue pas son péché, ne le réalise pas, c'est un menteur et il fait de Dieu un menteur. Mais si nous péchons et nous confessons nos péchés, cela veut dire qu'on craint Dieu, on respecte Dieu, on sait que ce qu'on a fait a été une offense au roi. Du coup, je dois m'incliner par le pardon. Je dois m'incliner par la repentance, une prise de décision de vivre selon les désirs du roi et non pas selon ma logique. C'est ça la repentance. Il suffit pas de dire pardon, il suffit pas de confesser, mais il faut prendre la décision de vivre maintenant selon le roi, selon les écritures, selon sa parole, par sa grâce. Vous savez, encore, c'est encore très grave par le fait que Dieu a mis à notre disposition son esprit pour nous rendre capables de lui plaire. Le prétexte comme quoi c'est trop dur ce que Dieu demande ne marche pas parce qu'il y a l'Esprit Saint qui nous est donné. On n'a qu'à s'incliner, réclamer la puissance de l'Esprit, réclamer la vie nouvelle par l'Esprit. Dieu dit dans Luc 11, « Je ne refuserai pas le Saint-Esprit à quiconque me le demande. » Revenons, Seigneur. Arrêtons de relativiser le péché. Seigneur, bien-aimé, je suis offusqué de voir des gens qui se disent chrétiens défendre des pasteurs qui sont pris en flagrant délit. De péché. Les images sont dans les réseaux sociaux. Et il y a des chrétiens qui les défendent. Vous dites, mais ces gens-là, quand ils se disent chrétiens, ça veut dire quoi pour eux? Le jugement commencera dans la maison du Seigneur. Il y a un chrétien qui dit, mais le pasteur, c'est un homme. Donc s'il rencontre une occasion, ben, il parle, il en profite. Hein? Je me dis, mais ces gens-là, ils sont fous. Ou bien ils pensent que Dieu n'existe pas. Ils ont perdu complètement la crainte de Dieu. Et ces pasteurs-là qui, par défi, reviennent encore le dimanche alors que leur situation, ça éclate dans les réseaux sociaux. Ils reviennent encore le dimanche dans leur église pour prouver qu'ils sont toujours forts. Ils prêchent. Bien-aimés, ces gens-là, pour eux, Dieu n'existe pas. Ces gens-là, pour eux, Dieu n'est pas le roi. Donc, comme il se présente lui-même dans sa parole. Mais Dieu dit, c'est lui qui l'emportera, c'est Dieu qui l'emportera. Il les jugera. Il va manifester que c'est lui qui est Dieu. Ça commencera au milieu des chrétiens. Une des grandes douleurs des vrais enfants de Dieu, c'est la confusion. Ils se disent, ah Seigneur, mais comment nous allons travailler avec ton nom? Mais il y a ces gens-là qui travaillent aussi avec ton nom, mais qui sont en train de travailler pour Satan, qui sont en train de professer ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas de toi. Cette confusion-là, Seigneur, nous gêne. Mais le Seigneur dit, calmez-vous. Il y a un temps où il y aura une différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est de la fausse monnaie. Il y aura la différence entre la vraie monnaie et la fausse monnaie. Calmez-vous, vous tous qui souffrez de voir cette confusion-là. Votre Dieu existe. Il existe. Comme ces gens-là, ils s'étaient dit quoi? On n'y va pas. Et alors? Dieu a envoyé une deuxième série. Ils se sont dit, on n'y va pas. Et on ne veut plus qu'ils nous envoient des gens. Ils ont tué ces gens-là. Et je peux vous dire que tous ceux qui sont de la vérité, ils vont avoir aussi des années difficiles. Parce que la haine contre eux va augmenter. Parce que ces gens-là, ces garants dans leur fausseté, ces prétendus chrétiens, ces garants dans leur fausseté, ils vont s'allier aux gens du monde pour combattre la vraie vérité, l'accusant de mettre le trouble dans le monde. C'est ça qui va se passer. Parce que la vraie vérité va embêter les faux chrétiens, ça va embêter les païens, du coup les deux là vont s'allier. Et donc les jours vont être difficiles pour les vrais prédicateurs, les vrais chrétiens, mais notre Dieu a la victoire toujours. toujours. On n'est pas les premiers. Il y a eu les Daniel avant nous. Il y a eu les Paul avant nous. Mais quand vous lisez leur vie, ben c'est ça qui nous attend aussi. Il n'y a que deux églises qui ont été auxquelles Jésus n'a adressé aucune remontrance dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2 et chapitre 3. Sur cette église, il n'y a que deux églises qui n'ont pas eu de remarques négatives. L'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Maintenant, allez lire à la maison comment ont été la vie des gens de cette église-là. Vous allez voir que Smyrne a connu des persécutions terribles. Vous allez voir que Philadelphie a été considérée comme faible, ayant peu de puissance. Faible. Eh bien, les gens de vérité seront maintenus faibles par Dieu, en apparence, tout en ayant la gloire de Dieu en réalité. C'est un chemin que les chrétiens de vérité doivent accepter. Si tu es chrétien de vérité, mais tu veux le succès des gens de fausseté, tu te mets dans un chemin qui n'est pas celui des vrais enfants de Dieu. C'est ça la réalité. Et c'est comme ça que beaucoup, beaucoup, beaucoup de vrais chrétiens au départ deviennent faux parce qu'ils ont voulu embrasser la carrière de gens qui n'imitent pas Christ, qui n'imitent pas les apôtres, qui n'imitent pas les Daniel, qui n'imitent pas les David. Ils ont voulu embrasser leur carrière, alors que ces gens-là, quand on regarde leur vie, on regarde la vie des apôtres et de Jésus, ça se ressemble pas. Mais toi, tu es vrai. Au lieu de prendre Jésus comme exemple, au lieu de prendre Paul, Pierre comme exemple, tu prends le pasteur qui a 10 000 membres comme exemple, 1 000 voitures, 2 avions. C'est eux que tu prends comme exemple alors que tu as des exemples en face de toi. Et c'est comme ça que beaucoup de vrais sont devenus de faux. C'est comme ça. Ils se sont trompés de modèle. La relativisation du péché, c'est une démonstration de l'irrespect vis-à-vis de Dieu. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Bien-aimés, le sang de Jésus est là pour nous purifier de tout péché. Alors, choisissons la sainteté, choisissons la vérité. Et s'il arrivait qu'on tombe, demandons pardon au Seigneur. Et le sang de Jésus nous purifiera. 1 Jean 1,7, 1 Jean 1,9. Deuxième point qu'on vit aujourd'hui qui montre la négligence, l'irrespect vis-à-vis de Dieu, le manque de crainte de l'Éternel, c'est la non-utilisation de la parole de Dieu comme moyen de vie, comme moyen de travail, comme projet. Beaucoup de chrétiens n'utilisent la parole de Dieu aujourd'hui que pour ne pas faire le mal. Mais la parole de Dieu est un projet de vie pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu contient notre vie à tous. Je vous ai dit que c'est Luc 5,11 m'avait marqué. Et ceux qui me connaissent vont reconnaître que ma vie ressemble à Luc 5,11. C'est-à-dire que mon avenir était dans Luc 5,11. Et l'avenir de chacun d'entre nous est dans les passages bibliques. Mais peu de gens s'intéressent à leur avenir qui est dans les passages bibliques. Leur avenir est dans la conception commune de l'avenir d'un humain. Faire les études, avoir un bon diplôme, un bon boulot, se marier, avoir tel nombre d'enfants, acheter une maison, préparer sa retraite. C'est ça l'avenir de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ou alors prendre le chemin du service de Dieu en tant que chantre, en tant que prédicateur et réussir, voir l'église grandir, beaucoup de gens dans l'église. Être un chantre, faire des CD, des concerts spectaculaires, que tout le monde entende parler de nous. Dans tous les cas, la réussite terrestre. Or, ce n'est pas ce que Dieu nous prophétise dans la parole. Quand Paul a dit au Seigneur, que dois-je faire? Il a dit, va dans la ville, quelqu'un te parlera. Et quand Dieu a parlé à Ananias, la personne qui devait parler à Paul, il lui a dit, il faut que tu lui dises, cet homme, je l'ai mis à part, il souffrira à cause de mon nom. Il prêchera au roi, il prêchera aux gens dans ce monde. Et il souffrira dans ce ministère-là. Il n'a jamais promis à Paul des richesses. Mais bien aimé, il n'a même pas besoin de nous les promettre parce qu'en lui nous sommes riches. En lui nous avons tout. C'est lui le roi, c'est lui qui est Dieu. Il n'a même pas besoin de nous promettre ces choses. Mais il peut nous prophétiser notre parcours. Mais en matière de possession et autres, si nous sommes en lui, nous avons toutes ces choses. Nous ne manquons de rien. Même si le compte bancaire est vide, mais chaque jour tu manges comme si le compte bancaire était rempli. Revenons à l'utilisation de la Bible. Chaque jour dans ta vie, tu prends la Bible, tu lis pour écouter l'orientation divine. Notre avenir se trouve dans la Bible. Les décisions que nous prenons doivent s'inspirer de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est les briques que nous utilisons pour construire tout ce que nous avons construit sur terre et qui est comme un pont qui nous amène au ciel. La construction de tout ce qu'on fait sur terre par la parole de Dieu n'est jamais quelque chose de terrestre, c'est toujours quelque chose qui est relié au ciel. Ça prend toujours la forme d'un pont qui amène au ciel. Ce qui tourne comme ça revient sur terre, ce ne sont pas les projets de Dieu. Tout ce que Dieu construit avec un homme prend toujours la forme d'un pont qui relie au ciel. La négligence de la parole de Dieu est un témoignage de ce que j'appelle l'irrespect de Dieu. On ne prend plus Dieu au sérieux. Parce que si on prenait Dieu au sérieux, on écouterait ses instructions. C'est ce qui fait que le jour où maintenant il vient avec une instruction flagrante, une instruction urgente, de dernière minute, la plus importante, on va louper ce jour-là. Ces gens-là on finit par se familiariser avec Dieu, avec plutôt le roi. Je crois qu'ils avaient déjà pris l'habitude de ne plus obéir au code civil du pays, au code pénal du pays. Ils avaient déjà pris l'habitude de ne pas faire exactement ce que le roi demandait. Et le roi ne faisait rien. Et comme le roi ne faisait rien, ils se sont dit, on peut toujours continuer. Et c'est là que 1 Pierre 4, 17, 18 va réveiller les gens. Le jugement commencera dans la maison de Dieu. Dieu jugera dans sa maison. Après, il prendra le noyau qu'il faut pour maintenant aller inviter les païens de dernière minute. Beaucoup seront sauvés comme le voleur à la croix. En dernière minute, beaucoup de païens seront sauvés. Beaucoup. Beaucoup de ces païens n'ont pas appris Dieu et donc le jour où ils vont connaître Dieu, ils vont le prendre au sérieux, ils vont aller au ciel. Comme le voleur à la croix, exactement. Mais beaucoup qui sont dans la maison de Dieu, ils se sont familiarisés aux instructions divines, aux désobéissances. Parce que c'est un joueur de piano, parce que c'est une chantre. Donc, on croit que puisqu'on travaille pour Dieu, on peut désobéir sans problème, c'est pas grave, on est déjà dans la maison. Mais c'est pourquoi le jour où Dieu maintenant ramène l'instruction capitale, c'est les noces de mon fils. On y va. Il y en a qui disent, ah, mais non, on verra après. Mais non, mais c'est les dernières noces. C'est pourquoi le roi insiste. Il envoie un autre groupe de serviteurs. Donc, c'était une fête. Si tu rates ça, c'est fini pour toi. Et beaucoup rateront l'enlèvement comme ça. Parce qu'ils se diront, on verra après. 1 Pierre 4:17 va s'accomplir. Il va y avoir une séparation au milieu de ceux qui se disent chrétiens. Et un petit groupe sera mis à part pour faire l'évangélisation de la fin des temps. Je vais finir, bien-aimé, en disant ceci. Quand ces gens-là disent, je viens de me marier, un autre dit, j'ai 5 paires de bœufs à essayer. Et un autre encore disait quoi? J'ai acheté un champ, hein, quelque chose de ce genre-là. Nous aussi, on a pris l'habitude de dire aux gens, oh, mettez de côté vos projets, mettez de côté vos préoccupations terrestres, choisissez Dieu. Mais aujourd'hui, je veux dire l'inverse. Je veux dire que tous ceux qui donnent des excuses pour servir Dieu, c'est des gens, en réalité, qui ne prenaient déjà plus Dieu au sérieux. C'est tout. La vraie raison, c'est pas le mariage. C'est pas la vraie raison du fait que ces gens-là ne prennent pas Dieu au sérieux. La vraie raison, c'est pas leur boulot. C'est pas leur entreprise. C'est ce que je pensais aussi avant. C'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que ça a commencé déjà par le fait que dans leur cœur, ils ne prennent plus Dieu au sérieux. Et c'est ce qui fait que un vide se crée. Il n'y a pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac qui remplit leur vie. Un vide se crée. Ils sont obligés de combler ce vide par les choses de la terre. La vraie raison, c'est qu'ils ne se sont pas intéressés à Dieu. Vous savez, il y a un passage qui dit dans 2 Thessaloniciens 2, vers le verset 9, il est dit que les gens iront dans la puissance d'égarement, dans le mensonge, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité ou aimé la parole de Dieu. C'est-à-dire que s'étant détournés de la parole de Dieu, leur cœur, qui est un cœur illimité, un humain, c'est un être illimité, son cœur a besoin de quelque chose pour d'être rempli de quelque chose. Donc, puisqu'il ne s'est pas laissé remplir de Dieu, il va beaucoup plus s'intéresser aux choses de la terre. Et nous redonnons le même conseil. Tournons nos regards vers Dieu et nous verrons, comme l'apôtre Paul dit, goûter. L'apôtre Pierre dit, goûter. Le psaume 34 dit aussi, goûter et voyez comment le Seigneur est bon. Quand tu as goûté au Seigneur, c'est ça qui te guérira des attraits du monde. On ne va pas chaque jour dire aux gens, attention aux attraits du monde. Aujourd'hui, on donne le message suivant. Tourne tes regards vers Dieu. Goûte au Seigneur. Tu réaliseras combien il est plus bon que les choses du monde. Insiste. Parce que pendant que tu tournes les regards vers Dieu, les pensées des choses du monde continuent à fonctionner dans ton cerveau. Insiste. Dis Seigneur, la délivrance viendra par ta vie. La délivrance viendra par les choses du ciel qui entreront en moi. Elles auront beaucoup plus de goût que les choses que je vois. Il y en a, pour ne pas tomber avec les hommes ou les femmes, eh bien, ils cherchent le meilleur homme, la meilleure femme. n'est pas ça qui te préservera de tomber. C'est quand tu goûtes à Dieu comme le plus grand partenaire, le plus glorieux, le plus beau, le meilleur. C'est ça qui te guérira de tout. Ce n'est pas en ayant une très belle voiture que ça te guérira d'envier la voiture de quelqu'un d'autre. Pas du tout. Tu es dans un circuit faux. C'est quand tu goûtes au fait que Dieu est ton vrai transport. Vous savez, Philippe, il parlait avec l'eunuque éthiopien dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Mais il nous a dit qu'il a été enlevé et amené ailleurs. Quand tu sais que Dieu peut faire tout, quand tu t'habitues aux choses de Dieu, quand tu t'habitues à Dieu, quand tu vis avec lui, tu utilises la parole chaque jour, tu vas apprécier cette parole. Mais quand tu te détournes de ça, tu négliges par habitude, tu finis par considérer que ça n'a pas autant de poids que cela. C'est par habitude, parce que au début tu l'as considéré. Mais avec le temps, puisqu'elle est à ta portée, nous avions donné récemment cet exemple. Un bijoutier va toujours considérer que ces diamants qui sont dans les vitrines et l'or et les perles, il va toujours les considérer comme ayant beaucoup de valeur. Pourtant, il les voit tous les jours. Il ne va jamais se familiariser avec ça pour dire « Oh non, mais ça n'a plus beaucoup de valeur. » Non, pour lui, ça a toujours beaucoup de valeur parce qu'il sait que c'est du diamant. C'est de l'or, c'est des perles. Mais nous avons des perles, du diamant, mais à force de le voir tous les jours, on finit par les considérer comme un livre d'histoire. On finit par les considérer comme un code civil, un code pénal. Et c'est ça qui nous fait perdre de la gloire, de la vie, et c'est ça qui fait que nous commençons maintenant à apprécier les choses de la terre, à aimer les choses de la terre, et du coup, quand Dieu vient, on dit, oh mais non, attends. Je dois d'abord regarder le grand pâtissier. Attends. Je dois aller faire les soldes d'abord. Attends. Et surtout les gens qui vont payer l'enlèvement. Arrêtez avec vos histoires d'enlèvement là. Ah ben. Parce que ça va te priver du mariage que tu prépares dans 2 ans. Bien-aimé. Non. Tournons le regard vers Dieu. Nous réaliserons combien il est bon. En réalité, les préoccupations que ces gens-là ont utilisées comme excuse, ça vient du fait que, déjà dans leur cœur, ils négligeaient le roi. C'est tout. C'est tout. La vraie raison, c'est la négligence du roi. Ce ne sont pas ces préoccupations-là. Parce que quelqu'un qui connaît un royaume, il sait que dès que le roi dit quelque chose, tu laisses tout ce que tu faisais, tu suis le roi. Et le roi du Maroc, moi j'ai connu Hassan II, quand il descendait de l'avion, même les ministres ne lui disaient pas bonjour en face, ils lui baisaient la main. Il se prosternait, baisait la main. Ça c'est le roi. Et ce roi-là va te dire, il y a la fête aujourd'hui. Tu dis, non mais moi j'ai un anniversaire. Bien-aimé, c'est que on n'est plus dans un royaume là. On est dans la République. Mais le ciel, ce n'est pas une République, c'est un royaume avec le roi des rois qui est notre Dieu. Bien-aimé, lisons 1 Corinthiens 6, j'avais oublié ce verset-là, 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ce qui manque aux gens, c'est la conscience que nous appartenons à Dieu. C'est la conscience que nous appartenons à Dieu. C'est ça qui a fait que ces gens-là ont résisté au roi. 1 Corinthiens 6, 19 à 20.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
Ah, amen. Ne savez-vous pas, vous, pas que vous ne vous appartenez pas? Vous appartenez à Dieu? Alors laissez-vous comme instrument pour sa gloire, puisque vous lui appartenez. C'est ce défaut-là qui fait la chute de beaucoup de chrétiens. Ils ne réalisent pas qu'ils appartiennent à Dieu. C'est pourquoi ils peuvent lui dire, « Non, je suis occupé. Non, j'ai tel projet. Non !» Mais quelqu'un qui sait qu'il appartient à Dieu, il laisse Dieu faire. C'est ça qui fait la qualité des anciens serviteurs. Je vous ai parlé des gens qui étaient persécutés en Roumanie. Quand on était en train de le torturer, et on leur disait, mais comment vous voulez pas vous sortir de cette torture juste en reniant Jésus? On vous laisse tranquille. Et ils donnaient la réponse suivante à leur bourreau. Mais ce n'est plus notre vie pour que nous essayions de nous soustraire à votre méchanceté. C'est la vie de Jésus. Nous, on n'a plus de vie à nous. Notre vie est à Jésus. Nous ne pouvons plus décider de faire quoi que ce soit pour nous soustraire à vous. C'est Jésus qui décide, puisque ce n'est plus notre vie. Ah, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est ça la pure vérité. On ne s'appartient plus. Il y a des gens qui disent, ah, je ne comprends pas. J'ai sollicité telle chose, ça n'a pas marché. J'ai fait ceci, ça n'a pas marché. Oh, mais ce n'est plus ta vie. Dis plutôt, Seigneur, tu attends quoi de moi? C'est tout. Tu attends quoi de moi? Il n'y a plus ce réflexe-là. C'est ça qui explique le non-respect de Dieu aujourd'hui. Le païen qui est là tout tranquille en train de mener sa vie, il ne réalise pas qu'il ne s'est pas créé. Mais lui, il est encore païen. Mais toi qui es enfant de Dieu, le Seigneur dit, dans le passage qu'on vient de lire, que doublement nous lui appartenons. Un, par la création. Deux, par le salut en Jésus. Donc, non seulement qu'il nous a créés, alors qu'on était perdus, il nous a sauvés. Donc, nous lui appartenons doublement. Doublement. Raison de plus, je dis que ma vie va servir à la gloire de Dieu. Je veux m'intéresser à son projet pour moi, à son plan pour moi. Je vais lire la parole. Il y a des exemples de projets dans la parole. C'est ça qui fait la qualité de nos anciens. Abraham, vous savez, Abraham n'a pas connu une vie facile. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est resté fidèle à Dieu? C'est la sensation d'appartenance, la conscience d'appartenance à Dieu. Quand on lui demande de sacrifier son fils, qu'est-ce qui fait qu'il obéit? Un commandement bizarre comme ça. Tout simplement parce que c'est le roi qui le dit. C'est tout. Il ne faut pas croire que c'était logique dans la tête d'Abraham. Pas du tout. C'est devenu logique quand il a décidé d'obéir. C'est là qu'il a reçu la révélation de la résurrection possible par Dieu. Mais il a d'abord obéi parce que c'est le roi qui disait. La qualité des anciens serviteurs de Dieu, c'était leur crainte de Dieu. Il craignait Dieu. Quand David est chassé du pouvoir par son fils, vous croyez que c'est un moment agréable? Il pouvait aussi se rebeller contre Dieu. Il pouvait prendre un autre chemin. Mais il a dit aux gens, c'est Dieu qui l'a décidé. Je m'incline. En pleurant devant lui, peut-être qu'il aura pitié de moi et il me ramènera comme roi. C'est l'attitude des grands, craindre Dieu. Même si on ne comprend pas tout, même si on est un peu mécontent, mais on cède, parce que c'est le roi qui a décidé. Ma vie est entre ses mains, je lui appartiens. Job, sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt, regarde tes souffrances quand même. Où est-il ce Dieu-là? Job dit à sa femme, ma femme, c'est Dieu qui avait donné les enfants. C'est Dieu qui avait donné les richesses. S'il le reprend, C'est lui qui les avait donnés. Conscience de quoi ? De l'appartenance. Quand tu as cette conscience de l'appartenance à Dieu, ça te maintiendra dans la vérité jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire que ta vie sera tout le temps agréable, mais cette conscience-là, que ma vie, elle appartient à Dieu, fera que tu te maintiendras dans le Seigneur. Quand Daniel entre dans la fosse au lion, parce qu'il accepte qu'il meure mangé par les lions plutôt que de désobéir à son roi. On est toujours dans l'appartenance, c'est-à-dire qu'il dit, mais si ma vie, il a décidé pour ma vie d'être que ce soit mangé par les lions, c'est sa décision. Je lui appartiens. Mais moi, je lui resterai attaché et fidèle. Quand Joseph reste fidèle à Dieu dans la prison, tout ça, c'est la sensation d'appartenance. Je suis à lui. Il décide pour moi. Isaac, vous vous souvenez d'Isaac? Isaac a été trompé par Jacob. Il a béni Jacob. Alors que lui, il voulait bénir qui? Il voulait bénir Ésaü. Mais quand Ésaü lui fait rendre compte de la supercherie, il dit, mais tu as prié pour mon petit frère, c'est pas pour moi. Maintenant, prie pour moi. Dis les choses que tu avais prévu de dire et que tu as dites à mon frère. Isaac a dit à Ésaü, mon fils bien-aimé, je ne peux pas. Je reconnais par tout ce qui s'est passé la main de Dieu. Et je m'incline devant ça. Vous savez, ces gens-là étaient des grands aux yeux de Dieu. Lui, il avait décidé de bénir Ésaü. Mais il a compris que Dieu voulait que ce soit Jacob. Et même s'il y a eu supercherie, il n'a pas reculé. Mais je sais qu'aujourd'hui, les gens qui ne craignent pas Dieu, qui se disent chrétiens, ils auraient dit, Jacob a menti, donc ça ne compte plus, j'annule ça. Mais ils n'auraient même pas été attentifs à Dieu. Eux-mêmes, ils allaient décider, c'est du mensonge. Mais Isaac était attentif à Dieu, il craignait Dieu. La crainte de Dieu n'existe pas aujourd'hui, hein. N'existe plus pratiquement aujourd'hui. Les gens vont même utiliser des raisonnements purs, sains, pour dire, ah non, 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 il y a eu le mensonge, ce n'est pas de Dieu. Mais Isaac craignait Dieu. Il a compris que c'était Dieu. Dieu lui a fait comprendre que c'est moi. Il a cédé. Il l'a cédé. Jacob, quand il bénit les fils de Joseph, il veut commencer par le petit, parce qu'il ne voyait plus bien. Joseph lui dit, mais non, papa, c'est pas l'aîné que tu touches là, c'est le petit. Jacob dit, laisse petit, laisse mon fils, c'est comme ça. C'est des gens qui savaient que Dieu pilotait tout. Le comportement des chrétiens aujourd'hui, c'est comme si Dieu fait des erreurs à tout moment. C'est à eux de redresser à chaque fois. C'est comme si Dieu ne sait pas ce qu'il fait dans leur vie. C'est à eux toujours de redresser. Le fils ne fait pas comme toi, mais il faut que tu l'amènes à faire comme toi, le même parcours que toi. Non, au lieu de le recommander à Dieu, c'est toi qui veux redresser son parcours par tes propres efforts. Redresser le parcours de ta fille par tes propres efforts. Les événements sont conduits par Dieu. Toi, tu veux les améliorer, les redresser. Mais Isaac, Jacob, ils ont dit laisse. Jacob a dit à Joseph, laisse. Moi-même, je cède à Dieu en faisant ce que je fais là. C'est comme ça. C'est ça les grands. Ils sont arrivés à craindre vraiment le Seigneur. C'est ça la réalité. On dit à Ananias, va prier pour un monsieur qui s'appelle Paul. Ananias dit à Dieu, « Mais oui, mais il nous persécutait. » Dieu lui dit, « Mais c'est moi qui ai décidé comme ça. » Il est parti. Je ne m'appartiens plus. Et Dieu ne se trompe pas. Donc ce qui est écrit est vrai, est plus vrai que ce que je vois. Que ça me plaise ou pas, Seigneur, voilà notre prière pour clôturer. Seigneur, que ça me plaise ou pas, aide-moi à accomplir ta parole. Nous prions, Père éternel, pour te demander pardon d'avoir diminué en respect de ton nom, en crainte de ton nom. Nous avons cru, Seigneur, que tu étais un écrivain. Nous avons cru que tu étais un scientifique, Seigneur. Mais toi, tu n'es pas un scientifique, tu n'es pas un écrivain. Tu es le roi des rois, le créateur de l'univers, le seigneur des seigneurs. Tu es la parole, tu es celui qui maintient toutes choses en vie. Tu es Dieu. Nous t'appartenons, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Prends le contrôle de nos vies. Conduis tout et aide-nous à respecter la façon dont tu nous conduis, la façon dont tu places les événements, la façon dont tu construis les choses. Seigneur, si tu nous as donné des autorités, que nous respections cet ordre-là. Seigneur, si tu nous as donné des enfants, que nous respections cela. Si tu nous as donné mari ou femme, que nous respections que c'est ta volonté, qu'on essaye, Seigneur, qu'on se laisse conduire par toi pour que tout soit bien au lieu de vouloir faire les choses à notre manière, Seigneur. Et si tu nous as confié aussi des gens à notre charge, que nous ne puissions pas rejeter ceux qui peuvent paraître comme rebelles, mais que nous puissions les gérer selon ta parole, dans un esprit d'amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci de nous aider vraiment à craindre ton nom dans ces temps de la fin. Que nous arrêtions de relativiser le péché, que nous arrêtions de déconsidérer ta parole, de faire notre vie par notre intelligence et non selon ta parole. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.